Se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui sont dans les passages depuis un certain temps, vous savez qu'il y a un fil rouge qui relie les émissions les unes aux autres, qui les relie comme les maillons d'une chaîne. Ce fil se tresse en permanence à partir de trois brins. Le brin de l'infantile, celui du parental maternel et le parental paternel. C'est pour cela que nous avions commencé, il y a maintenant un an, par le roman de Jeanne Benhammer, L'enfant qui. L'enfant qui parce que c'est une histoire où l'enfant, accompagné de son animal intérieur, interroge et part à la recherche des deux composantes du parental, la mère et le père. Alors aujourd'hui, pour accueillir celles et ceux qui entrent dans les passages, peut-être pour la première fois, continuons d'interroger l'infantile et le parental avec nos deux jeunes invités, Maëva et Léna. Elles font un stage à la Radio Esprit Occitanie dans le cadre de leur école de journalisme. Bienvenue à vous deux et merci à Léo d'assurer la technique. Bonjour Maëva et Léna.
Bonjour.
Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir et c'était impossible de ne pas saisir l'occasion de faire cette émission avec vous pour parler de la féminité quand on la met en lien avec le parental. Parce qu'il me semble que pour une jeune femme, ce lien entre féminité et parentalité s'appelle maternité. Mais dans votre génération étudiante, n'est-ce pas d'abord la question du féminisme à laquelle renvoie le féminin ? Et que signifie pour vous le féminisme ?
Pour moi, le féminisme, c'est tout simplement l'égalité entre les femmes et les hommes.
D'accord. Et pour toi?
Pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est l'égalité homme-femme. C'est un mouvement qui prône l'égalité et non la supériorité.
Oui, et pour autant, à votre avis, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à ce qu'il y ait une réelle égalité en termes de vécu, si je puis dire? Est-ce que le vécu en tant que femme et le vécu en tant qu'homme est strictement dans l'égalité?
Non, je pense pas.
Pareil, je pense que...
C'est dur d'obtenir la légalité.
C'est pour ça d'ailleurs qu'a été, à mon avis, inventé un autre mot qui s'appelle l'équité.
Oui, mais l'égalité ou l'équité, je pense que ce soit entre les hommes ou les femmes, ou entre les peaux blanches et les peaux noires, entre les religions, etc., je pense que c'est dur à trouver.
D'accord. Donc vous êtes en accord avec la définition du féminisme qui est considérée comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme, à l'exploitation et à l'oppression sexiste, c'est-à-dire à réaliser la pleine égalité de genre en droit et en pratique. C'est bien de ça dont vous parlez.
C'est ça, tout à fait.
Oui. Ce qui est intéressant également, c'est que est mis au rang des valeurs féministes, justement en premier l'égalité, mais aussi l'écoute, l'empathie, le respect, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, l'autonomisation. Vous êtes bien d'accord que si ce sont des valeurs féministes, on peut aussi, nous les hommes, se les approprier?
Bah bien évidemment, oui.
Bon. Je vous ai fait part de mes questions et de mes réflexions d'homme en évoquant avec vous Simone de Beauvoir quand elle écrit dans Le Deuxième Sexe que vous faut assumer de le devenir. Je vous faisais remarquer que nous non plus, nous ne naissons pas hommes et nous avons à le devenir. Et comme vous, les petites filles, nous naissons petits garçons dans les yeux et dans les bras d'une mère. Alors, je vous ai posé la question à laquelle les femmes sont toujours confrontées de façon différente en fonction de leur âge, à savoir que si une petite fille ne naît pas femme et qu'elle le devient forcément après le passage par la puberté, Simone de Beauvoir n'en a pas interrogé la conséquence, peut-être parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Il faudrait donc rajouter « une petite fille ne naît pas mère non plus » et est-elle obligée de le devenir ? C'était ça le fond de notre échange qui a été à l'origine de cette émission aujourd'hui. Que pensez-vous de cette obligation ou non quand on est petite fille, qu'on devient femme, est-on obligé de devenir mère ?
Je pense qu'on va parler en tant que jeune fille occidentale.
C'est ça.
Parce que c'est pas pareil dans tous les pays. Mais aujourd'hui, on a le choix, on a la liberté et on n'a plus l'obligation de devenir mère. Enfin, je le ressens comme ça.
Oui, c'est pareil pour moi. Personnellement, on se sent pas oppressé par nos familles ou par les gens extérieurs à devenir obligatoirement mère.
Et puis aujourd'hui, on est libre parce que beaucoup se sont battus pour qu'on ait cette liberté. Je pense notamment à la contraception.
Oui.
Aussi au droit de l'avortement.
Exactement. L'avortement, qui est un choix de dernier recours, mais on reste libre de ne plus porter un enfant qui soit né d'une relation saine ou d'un viol, par exemple.
Bien sûr. La question qui peut se poser lorsque on avance en âge, c'est que ne pas se sentir obligé d'avoir un enfant me paraît effectivement extrêmement important pour les jeunes femmes d'aujourd'hui et va amener à poser la question, parce que finalement, comme c'est le pouvoir de votre corps, décider de ne pas porter un enfant, c'est un renoncement. C'est-à-dire que c'est ce que vous pouvez dire peut-être aujourd'hui, compte tenu de votre âge et de vos préoccupations qui ne sont effectivement pas encore de l'ordre d'une maternité, mais si vous persévérez dans le choix de ne pas être mère, ça veut dire que vous aurez renoncé à cette possibilité de concevoir un enfant et de le mettre au monde. La question qui se pose, du coup, c'est que ferez-vous dans le temps de ce travail d'un renoncement qui est toujours accompagné d'un deuil, en fait, c'est-à-dire ne pas avoir un enfant. C'est pour ça que je rencontre dans l'espace de thérapie beaucoup de femmes en souffrance qui, au début, n'en voulaient peut-être pas, puis quand elles en veulent un, ont du mal à en avoir un et qui posent la question, justement, des suppléances à la limite. Vous ne concevez pas un enfant, vous pouvez en adopter ou vous pouvez déplacer, comme peuvent le faire aussi les hommes, sur d'autres enfants symboliques, si je puis dire, qu'un enfant charnel.
On parlait de féminisme, et je pense que le féminisme, oui, c'est de choisir si oui ou non on veut un enfant. C'est de choisir, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes, c'est encore heureux qu'elles n'ont pas d'enfants, je pense, parce qu'elles ne sont pas aptes à les élever.
Est-ce que ce sont forcément des femmes qui en ont fait le choix, ou est-ce qu'elles subissent le fait de ne pas en avoir ?
Les deux, je pense. Chaque cas est différent.
Eh oui, chaque cas est différent. Je crois effectivement que certaines femmes, quand tu dis heureusement qu'elles ne sont pas mères, c'est assez douloureux, parce que peut-être qu'elles n'ont pas eu les moyens d'apprendre justement à accueillir l'infantile. On en parlait tout à l'heure. Faut d'abord commencer par accueillir l'enfant qui est en nous.
Exactement, oui, c'est sûr, pour élever un enfant, enfin, prendre le choix d'avoir un enfant, c'est pas un choix minime.
Tout à fait.
C'est une grosse responsabilité, et c'est pour ça que ça porte à une longue réflexion avant d'en vouloir.
Cette responsabilité, elle va s'exprimer par la fonction parentale, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne suffit pas de concevoir un enfant et de le mettre au monde par l'accouchement. Mais ensuite, il y en a pour plusieurs années d'accompagnement d'un infantile qu'il va falloir apprendre à parentaliser pour que l'enfant devienne un adulte. Comment vous percevez, parce que ça concerne certainement aussi votre propre enfance, le rapport aussi à vos propres parents, et quelle figuration, quelle représentation vous faites de la parentalité?
Ben, la parentalité, pour moi, c'est un peu un tournant dans notre vie. Enfin, il faut grandir, accepter ne plus être un enfant, entre guillemets, dans sa tête, et se responsabiliser, être prêt à assumer, comme vous avez dit, pendant un bon moment, son enfant, être présent, et ne pas, au bout de quelques années, se dire avoir des regrets ou ne pas être capable de pouvoir s'en occuper.
Il faut être sûr d'offrir un cadre stable, en fait.
Oui, et sain.
Mmh. Voilà.
Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, la parentalité, c'est en fait, bien sûr que c'est de l'amour, mais c'est un amour d'effort et qui nécessite justement d'accepter la certaine contrainte. Hein, avoir un enfant, c'est ben, on ne peut plus, par exemple, sortir aussi tard le soir ou faire ce qu'on veut avec les amis. Et la présence d'un enfant va obliger à modifier un peu son mode de vie quotidien.
Même, je pense, être enceinte, ça oui. change complètement la vie d'une femme et le corps d'une femme aussi.
Bien sûr.
Ça peut amener, vous qui êtes thérapeute, ça peut amener beaucoup de choses après l'accouchement oui. de négatif. Et tout ça, je pense que les femmes aujourd'hui, elles en ont plus conscience. Mais oui. c'est pour ça que ça peut amener des réticences.
Oui, je crois que ce qui est important aussi, c'est que le corps de la jeune femme, tant qu'elle n'a pas porté d'enfant, est un corps différent que celui qu'elle aura après avoir porté un enfant, ou deux, ou trois. Et donc, effectivement, il y a des transformations que le corps subit qui font aussi la différence entre les femmes et les hommes, et qui montre que l'égalité dont on parlait tout à l'heure est une égalité au sens de la valeur de l'individu, mais qui ne peut pas être en fait une égalité dans le vécu des uns et des autres. Qu'il n'y a pas d'égalité et qu'il faut au contraire même prôner la diversité hein, des différences. Et comment être dans les diversités tout en étant dans l'égalité? C'est pas mathématique ça. En mathématiques, on peut pas être à la fois égal et différent. Et sur le plan humain, on peut être égaux en respect, en dignité, en éthique, en humanité, tout en étant différents dans la diversité de nos vies, de nos évolutions, que ce soit à l'intérieur des femmes ou à l'intérieur des hommes. Dans ce qu'on évoque là, il y a un point important autour justement de la puberté dont on parlait tout à l'heure. Je vous ai un peu aussi interrogé sur cette jeune artiste, auteur, compositeur, Zao de Zagazan, qui vient de remporter 4 prix aux Victoires de la Musique, dont celui de meilleur album pour la Symphonie des Éclairs. Et je pense qu'elle représente une nouvelle façon d'incarner le féminisme. C'est aussi votre avis?
Oui, il y a... Ah pardon, Léna, je t'ai
coupé. Ah pardon, je voulais dire, oui, c'est une nouvelle forme de féminisme qui passe par d'autres moyens, comme par l'art, qui oui. est la musique. Après, ça peut passer aussi par la peinture.
Oui.
C'est de nouvelles formes qui sont attrayantes.
Oui, il y a plusieurs chanteuses hein, qui prônent le féminisme. C'est bien.
Oui, et qui abordent la question de l'amour dans toute sa diversité, dans sa complexité, dans ses difficultés. Alors, je voudrais faire écouter aux auditrices et aux auditeurs la première chanson de son album qu'elle a intitulée « La fontaine de sang ». Cette chanson, quand j'ai lu les paroles, m'a vraiment beaucoup interpellé, probablement en tant qu'homme. On évoquait ensemble... Que pouvait symboliquement signifier la fontaine de sang, qu'elle décrit comme une fontaine qui coule et donne à boire au rythme de son cœur. 1001 personnes viennent y boire impunément, mais ce sont des hommes goulus qui viennent dévaliser toute la fontaine et voler la part des enfants. Elle rajoute même, l'insatiable parent tue ses enfants et la fontaine tarie, retrouvera la vie quand ses ennemis ne seront plus de son temps.
le vin de ses vaisseaux au rythme de son cœur coule et donne à boire à des bouches au hasard, mille et une personnes, des amis, des amants viennent boire impunément des gorgées de son sang. L'insatiable parent a tué ses enfants. La fontaine tarie, elle retrouvera la vie une fois que ses ennemis ne seront plus de son temps.
Alors Maëva et Léna, comment vous entendez la fontaine de sang?
Comme les menstruations qui arrivent dans la puberté.
Oui, je crois.
Je pense que c'est ça.
Ça a été un moment compliqué.
Je pense que chaque jeune fille le ressent différemment. Mais ce dont parlait avec Léna, oui, c'est la prise de conscience, en fait. Maintenant, on est apte à avoir un enfant.
Tout à fait.
Ce qui peut amener à une certaine pression à certaines jeunes filles qui peuvent... chaque femme est différente, peut avoir ses règles à un moment donné très différent. Certaines les ont très très tôt, en primaire, et d'autres tard, comme au lycée. Et ça dépend, mais quand on est très jeune pour les avoir, je pense que ça met une certaine pression aux jeunes filles de se dire « je suis apte à avoir un enfant », comme disait Maëva, et pourquoi aussitôt, pourquoi... Ça engendre plusieurs... problème, entre guillemets. Il faut adapter son mode de vie, entre guillemets, par rapport à ça.
Oui, c'est ça, parce que y en a qui ont leurs règles à 10 ans, quoi. Et on leur dit, oui, tu peux avoir un enfant alors qu'on ne sait rien.
Mais c'est là que l'accompagnement parental est quand même tout à fait important et que vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir aller rencontrer une gynécologue, discuter aussi, soit avec vos parents ou en tout cas dans une démarche personnelle, et bénéficier de ce que la médecine d'aujourd'hui. On évoquait la contraception, mais effectivement aussi, on parlait d'égalité. On peut se demander pourquoi c'est encore l'hormonologie des femmes qui ont fait qu'il y a une pilule pour les femmes, mais qu'il n'y a pas de pilule pour les hommes.
Ça, et même pour ces jeunes filles, dans certaines familles, c'est assez compliqué d'avoir un soutien, parce que en fonction de certaines religions, c'est assez tabou, un sujet tabou, elles peuvent se sentir un peu délaissées par rapport à ça et incomprises, alors que c'est un phénomène tout à fait naturel et normal, quoi. Toutes les femmes y passent.
Oui, voilà, on a la chance avec Léna d'appartenir à une génération un peu plus décomplexée des précédentes, mais c'est pas forcément plus facile. Enfin, c'est compliqué à l'école, il y a de plus en plus de choses, hein, je dis pas, qui se mettent en place sur l'éducation sexuelle, etc. Mmh. Mais comme disait Léna, chaque jeune fille n'a pas la chance d'avoir les parents qui sont aptes à bien expliquer, oui, sans trop effrayer les jeunes filles.
Oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé que le livre de Franck Bouys, qu'il a intitulé « Né d'aucune femme », éclaire de façon tout à fait romanesque, bien sûr, mais extrêmement sensible, hein, comment on peut être né d'aucune femme. Et du coup, être né seulement, on pourrait dire, d'une matrice. Dans le roman, elle s'appelle Rose. Elle s'est pointée dans l'écurie pendant qu'Edmond s'occupait de la jument Artémis. Rose a dénoué un fil qui s'était enroulé dans la vie et dans le cœur d'Edmond. Il ne voyait plus la gamine qu'elle était en vérité. Il voyait seulement une petite femme qu'il portait pour lui prouver qu'il était capable de la protéger, rien qu'en la maintenant en l'air le temps qu'il voulait, sans effort. La terre a fleuri. Je ne sais plus combien de temps je l'ai gardée en l'air. Ce dont je suis sûr, c'est que j'ai jamais pu prononcer son prénom. J'en crevais d'envie, mais si je l'avais fait, je l'aurais fait disparaître, j'en étais sûr. Alors, j'ai fermé les yeux. Elle est toujours là quand je ferme les yeux. Je voudrais être aveugle. Un aveugle peut pas faire de mal à imaginer ce qu'il ne voit plus en vrai. Plus rien bougerait si j'étais vraiment aveugle. Elle serait toujours avec moi, en moi. Mais au début, j'ai essayé de regarder ailleurs. Je jure que j'ai essayé. Mais rien à faire. Ce qu'elle est en dedans, qui l'a fait devenir plus qu'elle-même. Et elle ne le sait même pas. Enfin, je crois pas encore qu'elle le sait vraiment. Ce qu'elle est en dedans, c'est la femme. Son mystère, c'est pas une chose qu'on peut expliquer, nous, les hommes. On peut juste tenter de s'en approcher. Je crois qu'elles naissent toutes avec le savoir de ce mystère qu'elles ont au fond d'elles, qui nous bouscule le sang. Ce qu'elles attendent en fin de compte, c'est de mélanger le pouvoir du sang alors qu'on veut juste posséder le leur. On n'a pas les mêmes égoïsmes, mais on peut s'en faire un même nœud au cœur. Ce que veulent les hommes, c'est avoir. Ce que veulent les femmes, c'est pouvoir. La gamine, elle ne savait pas encore que son corps avait le pouvoir de la fontaine de sang que chante Zao de Sagazan. Vous voyez que ça concerne aussi beaucoup des textes de la chanson de Zao de Sagazan, le rapport justement, lorsqu'on devient femme, sans forcément en avoir encore pleinement conscience, le rapport aux garçons ou le rapport aux hommes et toute cette difficulté d'entrer finalement dans un rapport, je dirais, homme-femme sans être encore engagé dans une conjugalité ou dans un engagement. Et c'est certainement, à mon avis, une chose qui reste importante aussi à votre génération.
L'équilibre entre les hommes et les femmes dans les relations?
Oui, la façon de, à la puberté, se transforme une part aussi de nos énergies, c'est ce qu'on va appeler la libido. C'est-à-dire que tant qu'on est enfant, nos énergies qui veulent obtenir sont sur des choses, je dirais, en dehors forcément de la sexualité génitale, enfin, ou de l'objet sexuel que représente la génitalité. C'est donc à la puberté, qu'une part de cette énergie devient de la libido qu'on va adresser, qu'on peut adresser d'ailleurs dans l'homosexualité comme dans l'hétérosexualité, mais qui est à la recherche d'un partenaire, je dirais, avec qui partager justement les éprouvées corporelles.
Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a la contraception. Oui. Et les jeunes filles sont libres d'aller consulter un gynécologue ou même au sein des collèges et des lycées, si je me souviens bien. On pouvait être accompagné par l'infirmière de l'établissement scolaire. Donc aujourd'hui, on a plus facilement accès, même gratuitement, je me souviens, aux préservatifs.
Mmh, c'est ça.
Voilà, on pouvait aller à l'infirmerie et demander des préservatifs gratuitement. Donc c'est une amélioration qui aide dans cette sexualité. Et dans la liberté, surtout.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est l'occasion à vos générations d'avoir autour de cette plus grande liberté et d'avoir une diminution des tabous autour de cette rencontre entre les hommes et les femmes, hein, de pouvoir aussi prendre le temps de découvrir la tendresse, tout le rapport des préliminaires, et que justement la sexualité, ce n'est pas uniquement l'acte sexuel qui est important pour la reproduction, si je puis dire, mais qu'il y a des tas d'autres façons de partager de l'intimité et de s'aimer, si je puis dire, au niveau des amants. C'est un peu d'ailleurs aussi une des chansons que Zao de Sagazan chante, puisqu'elle dit qu'elle aime façonner des garçons en fonction de sa représentation. Et donc de pouvoir être davantage, je dirais, dans dans le rapport à l'autre et laisser l'autre prendre des choses sur votre propre corps, si vous éprouvez le fait que ça vous est agréable et que vous avez envie de poursuivre la caresse, mais d'être dans la meilleure compréhension de son propre vécu et de ses propres sensations.
Je pense que c'est pour ça que l'éducation sexuelle est primordiale. Et on revient sur la question de la maternité. Mmh. Je disais que c'est important d'offrir un cadre stable à ses enfants pour pas qu'ils reproduisent un amour toxique avec qui ils peuvent grandir en regardant ses parents.
Et vous voyez que c'est autour de ces difficultés à trouver justement des équilibres, hein, entre ces différentes identités, ces différents passages, hein, parce que pour beaucoup de femmes, ça nécessite dans leur vécu d'avoir un lieu où elles peuvent venir évoquer la difficulté de passer de la fille à la femme, de la femme à la compagne, de la femme à la mère ou à la difficulté d'être enceinte, de passer de la mère au bébé, de la conjugalité à la parentalité. Enfin, tout ça, ce sont des passages d'une assez grande complexité. Et encore une fois, l'espace thérapeutique où vient se déposer ces éprouvés se caractérise par l'importance de tous ces passages qui permettent de faire des allers-retours. Parce que, comme tu le signalais tout à l'heure, Léna, une fois qu'on est devenu mère, il faut aussi pouvoir revenir à son corps de femme, hein, et retrouver aussi, on n'est pas que mère, hein. Et le vécu du corps de l'homme est différent, puisque même quand il est père, c'est dans sa tête, ça ne modifie pas son corps.
Oui, il ne faut pas que les femmes, en devenant mère, elles perdent leur certaine féminité, et qu'elles ne s'oublient pas, et qu'elles soient avant tout une femme et pas une mère. Enfin, si elles sont une mère, mais il ne faut pas qu'elles s'oublient elles-mêmes en donnant la vie à un enfant.
Il ne faut pas qu'elles se définissent seulement comme une mère.
C'est ça.
Qu'elles restent quand même une femme à côté.
Oui.
Alors c'est pour ça que, compte tenu de toutes ces difficultés à trouver des équilibres entre ces différentes identités, que pouvoir en parler avec vous m'a paru vraiment très précieux pour les auditrices, les auditeurs, pour nous qui sommes peut-être d'une autre génération, parce que votre situation d'étudiante correspond à une période de transition beaucoup plus complexe, hein, dans nos sociétés occidentales. Vous faisiez référence effectivement à d'autres pays où la place de la jeune fille est vécue complètement différemment et de façon souvent beaucoup plus contraignante. Et alors à l'inverse de ces sociétés, disons prises dans des traditions, pas toujours conformes à la question de l'équité et de l'égalité entre hommes et femmes, il se passe un temps long dans nos sociétés avant de pouvoir, pour une jeune fille ou un garçon, être autonome et gagner sa vie. Donc, le parental continue en fait de vous accompagner, hein, soit financièrement, que ce soit par vos parents, votre famille, ou par les aides de l'État, ou enfin les deux. Et comme j'imagine que votre préoccupation première, c'est peut-être d'abord d'acquérir des compétences qui vont vous permettre d'exercer un métier, hein, puisque vous êtes dans l'école de journalisme, vous êtes en stage, voilà. Du coup, j'ai été presque étonné que vous acceptiez si naturellement mon invitation, parce que j'avais un peu peur que de vous interroger sur l'avenir de mère, alors que vous êtes encore dans ce moment de construction de votre personne en tant qu'adulte, si je puis dire, de gagner votre vie. Et est-ce que ça n'est pas un peu perturbant de réfléchir à cette question de la maternité dans votre dans votre époque actuelle?
Je sais pas. J'ai l'impression que aujourd'hui, on est plus concentré sur notre carrière professionnelle. Je pense que c'est important afin d'offrir un bon cadre de vie, encore une fois, pour son enfant. Et d'abord, penser à soi. Enfin, c'est pas forcément de l'égoïsme, mais c'est...
Oui, dans notre génération actuelle, j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur nos objectifs personnels, comme a dit Maëva, construire sa carrière ou faire... réaliser certains rêves qu'on souhaite faire et après penser à voir peut-être plus tard une vie de famille future, mais d'abord centrer sa vie sur soi-même un peu.
En tout cas, je pense que de mettre ça en avant est effectivement pour vous le moyen de pouvoir envisager ensuite une conjugalité en horizontalité avec un homme, hein, c'est-à-dire de pouvoir avoir chacun son investissement au niveau d'un métier et que la femme ne soit pas cantonnée à faire des enfants et à les élever à la maison, comme ça a été le cas peut-être hein, pour nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères. Et l'équité, l'égalité dont on parlait au début, c'est de pouvoir aussi justement partager à la fois une carrière professionnelle, qu'on soit un homme ou une femme, puis partager aussi les contraintes de la parentalité ou les contraintes de la vie quotidienne, qui se fait beaucoup dans les jeunes couples aujourd'hui, où beaucoup de jeunes pères ou jeunes hommes participent aussi aux activités dites ménagères. Hein.
Mais je pense que c'est l'évolution de la société.
Oui, elle évolue en son temps.
Parce que nous, on a eu la chance, comparé aux générations précédentes, d'avoir un accès à l'éducation, donc on apprend et on a le choix ou non d'exercer un métier.
On a cette liberté de choisir de ce qu'on veut faire plus tard de notre vie.
Alors, oui, vous dites bien que vous faites partie peut-être d'une de certains privilèges, je dirais, dans votre éducation et votre milieu familial. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Zao de Zagazan continue aussi d'alerter hein, sur la difficulté pour certaines qui sont plus sensibles. Hein, de se faire alpaguer par des beaux parleurs. Les paroles de ses chansons, c'est « qui vous bandent les yeux, qui vous enferment dans leur filet ». Et pourtant, dans son album, elle est amoureuse de tous les garçons, chacun à leur façon, incapable de faire un choix, puisque, comme elle dit, son truc à elle, c'est de façonner des garçons à travers ses rêveries. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans une de ses chansons qu'on va écouter, qu'elle a intitulée « Mon inconnu », elle interroge le père. Elle dit « Je crois que je tombe amoureuse d'un inconnu. Est-ce possible, mon père? Est-ce possible dans la cour des grands ?» Comme si elle évoquait qu'elle sentait qu'elle était peut-être pas encore suffisamment parentalisée pour justement pouvoir faire le choix d'un homme avec ses qualités, mais aussi ses défauts, parce que le prince charmant, le prince idéal n'existe pas. On va écouter « Mon inconnu ».
Je crois que je tombe amoureuse d'un inconnu. Est-ce possible, mon père? Est-ce que vous en avez déjà vu des gens qui tombent amoureux d'autres inconnus? Ah, est-ce possible dans la cour des grands? Mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé des millions de fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon. Mais façonner des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. amoureuse d'un inconnu. Impossible, mon père, de l'oublier. Depuis que je l'ai vu, j'en ai honte. En manque d'amour ou détraqué. Ah. Putain, je suis détraqué. Mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça. Non, non, de mon côté, j'en ai rêvé seulement 8 fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon, mais façonné des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Je suis amoureuse de l'inconnu, l'imagination qu'on croise au coin de la rue, de l'histoire que je m'invente. Je le contrôle en continu.
Alors, on va aborder cette question des différents types d'amour, parce qu'on a tendance à privilégier un amour un peu absolu, comme si l'amour était unique, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de formes différentes d'amour. Mais on va continuer avec Léna, parce que... avec Maëva, pardon. Léna est obligée de nous quitter, c'est ça ?
Oui, c'est ça, malheureusement.
Bon, je crois que tu repars chez toi ?
C'est ça, je retourne chez mes parents du coup.
Voilà, et tu as un train à prendre.
C'est ça.
Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup.
Merci à vous.
Alors Maëva, on va poursuivre ensemble, hein, parce que, comme je le disais, il me semble important de pouvoir aborder que l'amour avec un grand A, comme si c'était un éprouvé unique, n'est pas utile et même amène souvent beaucoup de confusion. Et qu'en fait, notre histoire humaine, notre histoire de bébé, puis d'enfant qui grandit, avant de devenir adulte et de trouver une place dans la société, nous oblige à découvrir les différentes formes d'amour pour pouvoir les conjuguer ensemble. Il y a donc d'abord un amour qui se vit dans la verticalité, c'est-à-dire l'amour qu'on peut ressentir pour des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes ou les adultes qui vont nous accompagner, comme des enseignants. Et puis, il y a l'amour ensuite qui va basculer de façon verticale descendante pour, une fois qu'on devient adulte, l'amour que l'on peut avoir pour d'abord ses propres enfants, mais aussi pour les enfants des autres, qui peuvent être les neveux, les nièces, les petits-enfants que tu es amené à rencontrer, qui sont les enfants de couples d'amis. Et entre ces deux verticalités, l'ascendante et la descendante, il y a toute une place complexe pour les amours horizontaux, qui sont les amours de l'amitié, les amours de l'amour, quand il y a aussi effectivement le corps qui vient se mêler à l'éprouver psychologique et relationnel. Et puis, pour pouvoir aujourd'hui équilibrer tous ces amours-là, l'amour qu'on se porte en fait à soi-même, ce fameux amour extrêmement compliqué qui est un amour de type parental, puisque s'aimer, entre guillemets, c'est aimer l'infantile qui est en soi, et aimer, développer le parental qui nous demande de faire de l'effort. Et donc, est-ce que pour toi, c'est important d'avoir cette perception de ces différents amours ?
Alors, j'ai que 21 ans, donc je ne sais pas si j'ai beaucoup le recul sur ce sujet. Mais oui, c'est important d'entretenir tes amours sains, de ne pas tomber dans les amours, comme vous disiez, perfides ou toxiques, etc.
Là, tu parles d'éventuel amour que tu pourrais avoir vis-à-vis d'un jeune homme. Ou même d'une rencontre et de relations qui pourraient, sans forcément être un engagement, sans forcément vouloir que cette relation fasse famille, mais simplement pour t'apprendre à te connaître et à connaître l'autre. Hein. Et donc, c'est important d'avoir pris conscience que ça n'est pas le même amour que celui que tu as pour tes parents ou que tu pourrais avoir un jour pour un enfant.
Effectivement, oui, ce n'est pas le même amour, oui.
Et c'est important parce que je pense que encore aujourd'hui, un certain nombre de jeunes hommes ou de jeunes femmes peuvent s'imaginer que les amours de type avoir un chéri ou une chérie pourraient réparer les blessures et les manques que l'on a vécu durant l'enfance.
Ouais, mais je pense que c'est pour ça que des métiers comme vous exercez, des métiers de thérapeute, de psychologue, etc. existent. C'est pour aider à ces personnes à comprendre comment ça fonctionne. Enfin, c'est mon ressenti.
Oui, la difficulté, c'est que les personnes qui se font prendre, je dirais, dans cette illusion, ne sont pas averties, si je puis dire. C'est peut-être l'intérêt que Radio Esprit Occitanie nous donne de faire des émissions pour informer. Alors, tu évoquais d'ailleurs tout à l'heure les formations, ou du moins les démarches de prévention que l'éducation nationale essaye de donner dans les collèges, puisqu'il y a effectivement dans les établissements de collèges des heures consacrées à vie affective et sexuelle. Et comme j'ai eu l'occasion de travailler avec les infirmiers, infirmières qui font ces interventions au sein des collèges et disant que c'était parfois compliqué d'aborder vie affective et sexuelle vu l'hétérogénéité des familles dont sont issus les collégiens, dans certains collèges, ce sont aussi les sages-femmes du conseil départemental qui interviennent et qui me faisaient part de leurs difficultés. On a donc réfléchi ensemble et on s'est dit qu'il fallait peut-être donner aux collégiens et aux collégiennes une meilleure connaissance un peu de tout ce qui se passe dans nos éprouvés, dans qu'est-ce que c'est qu'avoir des envies, des non-envies, est-ce que c'est des besoins, est-ce que c'est simplement des désirs. Et tout ça aujourd'hui peut être en même temps abordé de façon un peu neuroscientifique à partir de du cerveau que nous avons avec les différents endroits où émergent nos envies, nos non-envies. Donc on a conçu un outil qui est un petit film d'animation qui va bientôt être disponible et puis on verra si ça peut aider justement à mieux comprendre la vie affective et sexuelle, en comprenant qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant de penser qu'on peut aimer quelqu'un d'autre.
Oui, je pense que c'est important de s'aimer soi-même, de comprendre comment ça fonctionne, en fait.
Oui. Comment ça fonctionne au niveau de tes éprouvés.
Oui, bien sûr, oui.
Oui. Apprendre à écouter la question des envies.
Mais comme vous disiez, est-ce que c'est une envie ou est-ce que c'est un besoin?
Voilà, en tout cas, le terme d'envie qui est utilisé par les petits-enfants confond ou peut en tout cas ne pas exprimer clairement, et c'est le rôle, à mon avis, de l'adulte dans une fonction de parentalité, que d'essayer de faire comprendre à l'enfant si son envie est un réel besoin ou si ça n'est qu'un désir qui peut attendre et qui n'aura de place, si je puis dire, qu'après que les besoins aient été remplis. Les besoins sont de nature d'autoconservation, par exemple. On a besoin de manger. Mais un enfant qui dit « j'ai envie de pâtes », par exemple, ou de frites, on ne peut pas tout le temps aller dans le sens de ses envies alimentaires s'il n'a pas une alimentation suffisamment équilibrée. Donc, le rôle de parent, c'est de donner satisfaction en partie à ses envies, à condition aussi que les besoins soient remplis.
Oui.
Et tu vois que ça, c'est des choses qu'effectivement, il faut aussi expérimenter pour soi-même et être capable de se parentaliser, puisque un jour, on aura à le faire pour un enfant. On va poser aussi du coup cette question que je trouve toujours un peu dans une forme d'ambiguïté. Et il y a encore une chanson de Zao de Sagazan qu'on va écouter qu'elle a intitulée « Langage ». Voilà en gros ce qu'elle dit. Elle dit « J'apprendrai à parler ta langue, à lire dans tes yeux, à entendre tes cris. Laisse-moi le temps de l'apprendre et quand tu partiras, sans raison ni pourquoi, te prendre ou te l'attendre la main, courir ou attendre demain. Je ne sais pas, je t'aime. » Mais ce que je trouve dans cette chanson, tu me diras ce que tu en penses, Maëva, c'est que à certains moments, on pourrait penser qu'elle parle à un garçon, mais à un autre moment, on sent que c'est bien à un petit bébé qu'elle peut aussi faire référence. On écoute.
J'apprendrai à parler ta langue, à lire dans tes yeux, à entendre les cris, tes cris silencieux. Laisse-moi le temps et la chance de comprendre ton langage, de comprendre pourquoi tu répètes qu'il n'est pas sage de tomber amoureuse de toi. Laisse-moi le temps de l'apprendre, ce temps est précieux, ne juge pas si vite, je fais de mon mieux. Et quand tu partiras, sans raison ni pourquoi, te prendre ou te l'attendre la main, courir ou attendre demain, je ne sais pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. 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 Je t'aime.
Alors Maëva, à ton avis, à qui elle parle, Zao de Sagazan, quand elle dit « j'apprendrai à parler ta langue » ?
Soit elle parle, c'est vrai, vous avez raison, on ne sait pas vraiment si elle parle, oui, si elle parle à son bébé ou à son amoureux, ou si elle parle à elle, peut-être, aussi.
C'est-à-dire au bébé qu'elle porte, qu'elle a été ?
Oui, à soi. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est important de s'aimer, donc je pense qu'elle essaye aussi de se comprendre.
Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a 20 ans, 25 ans, qu'on est passé par le moule de l'éducation nationale, qu'on a appris sa langue, l'histoire, les mathématiques, qu'on a une certaine formatage de notre cognition et de notre rationalité, ben, il reste encore à l'intérieur de nous la part pulsionnelle, infantile, donc de l'enfant qu'on a été ou du bébé qu'on a été et qu'on doit continuer à écouter. Et en fait, l'infantile qui est en chacun de nous parle un autre langage. C'est une autre langue. C'est d'ailleurs aussi pour ça que l'infantile parle souvent dans les rêves. et qu'elle parle aussi beaucoup de ses rêves, Zao de Sagazan, parce que c'est aussi l'infantile qui nous apporte des éléments dans nos projets de vie, dans ce qu'on a envie d'atteindre, etc. Quel rapport tu as avec les rêves ?
Avec les rêves, je pense que ça nous permet d'espérer.
Oui.
Et puis, ça nous pousse un peu, j'ai l'impression, vers l'avenir. Je ne sais pas comment vous le ressentez, vous.
Là, tu parles de rêves conscients et que tu organises dans tes rêveries vers les objectifs que tu voudrais atteindre.
Vous parliez des rêves de la nuit.
Ah, je parle aussi de cela.
Du subconscient, c'est ça ?
Ah oui, c'est effectivement une part du cerveau, une part du cerveau particulier qu'on appelle le paléocortex, qui est un cerveau émotionnel qui, lui, ne dort pas pendant que tu dors et ta conscience, elle est logée dans un néocortex qui est le cerveau des mammifères supérieurs, des primates, qui est venu superposer le cerveau des émotions. Et ce cerveau des émotions ne dort pas pendant que toi, tu dors. Donc, tous les jours, enfin toutes les nuits plus exactement, un sommeil équilibré fait qu'il y a des stades hein, de rêve hein, pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc la plupart d'entre nous, nous ne nous souvenons pas toujours évidemment hein, de nos rêves, hein, mais ce sont des productions qui nous renseignent hein, quand on s'en souvient hein, sur la façon dont les choses se construisent.
Oui, je vois comme... Et après, il faut analyser aussi les significations de ça, de plusieurs psychologues qui en ont parlé.
C'est ça. On peut interpréter de différentes façons, selon la manière dont on conçoit la construction de la psyché. Dans la thérapie que je pratique, hein, on considère qu'on ne rêve que de soi-même. Mais comme on est constitué de plusieurs présences à l'intérieur de soi... et qu'on a justement une image de la parentalité qui va se décomposer entre une image de la fonction paternelle et de la fonction maternelle. On appelle ça des imagos. Et quand notre rêve nocturne va mettre en scène de la parentalité, ben on peut effectivement rêver, par exemple, du père, de la mère ou de quelqu'un qui a représenté une fonction parentale dans notre vie passée ou présente, hein, mais qui en fait est choisi pour incarner la fonction parentale et mettre en scène des conflits ou des tensions. Et c'est pour ça que souvent les rêves peuvent être... apparemment traumatique, parce qu'on a l'impression qu'on est poursuivi par un parental qui nous voudrait du mal. Ça donne une certaine compréhension de son monde intérieur.
Oui, je vois ce que vous me dites, mais on essaye de nous passer des messages alors.
Oui, ou ça peut, en tout cas, quand tu décides de mieux comprendre ton monde intérieur, devenir une aide complémentaire hein, à mieux comprendre comment les présences se sont déposées à l'intérieur de toi durant ta petite enfance, ton enfance, et comment ça continue de fonctionner pour essayer d'harmoniser justement toutes ces positions à l'intérieur. Ça concerne aussi l'importance de pas uniquement tout mettre du côté de l'esprit et de donner aussi une place suffisante au corps, parce que le corps est aussi ce par quoi nous existons, même si notre corps nous renvoie à des dimensions de besoin hein, et donc de ce qu'on appelle le rapport à la survie. Alors que quand on accède à de la pensée, on peut être plus, une fois que l'on construit sa survie, on évoquait tout à l'heure avoir un métier, gagner sa vie, pose la question une fois qu'on la gagne, qu'est-ce qu'on en fait ? Quel sens on va donner à sa vie ? Donc je pense que le rapport au corps est aussi très important. Il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans son corps pour être bien dans sa tête.
Oui, il faut accepter ces changements. Tout à l'heure, on parlait de la puberté. Je pense que c'est pas une période facile à vivre pour tout le monde. Mais même au-delà de la puberté, quand on grandit, quand on vit plusieurs événements, quand on tombe malade ou comme la maternité, comme on
en parle. Exactement. Oui. C'est pour ça que il me semble que pour une jeune femme, le rapport au corps interroge différemment pour nous les hommes. Notre corps ne se transforme pas par des maternités, puisque nous ne portons pas l'enfant à l'intérieur de notre corps, et que pour une femme, repasser de son corps de mère hein, après 9 mois de grossesse, après l'accouchement, qui reste un moment quand même pas évident à vivre, hein, et il y a tout un travail psychologique, à mon avis, pour pouvoir rendre l'accouchement le plus naturel possible, hein, mais après de pouvoir aussi retrouver son corps de femme, hein. Et c'est important que la femme soit accompagnée. Hein. Il y a des doulas, il y a des techniques d'enveloppement qui permettent à la femme de retrouver, après une grossesse et un accouchement, une certaine intégrité de son vécu corporel. Ça nous donne l'occasion aussi d'écouter une dernière chanson avant de se quitter, parce que Zao de Sagazan, que dans son album qui est très complet, j'invite les auditrices et les auditeurs à lire l'ensemble des paroles de ses chansons, hein, dont elle est l'autrice, compositrice et interprète, hein, et sa 12e chanson s'intitule « Mon corps ». Alors, on va essayer, à la suite de ce bel échange, hein, d'apprendre à être dans ces passages entre notre corps, notre esprit, nos éprouvés, de pouvoir trouver cette harmonie, hein, entre être bien dans sa tête, être bien dans sa peau, dans son corps. Et voilà, je te remercie vraiment beaucoup, Maëva, et je remercie Léna d'avoir accepté avec vraiment spontanéité de de vous livrer, de livrer un peu une part d'intimité, parce que c'est pas évident hein, d'aborder ce passage entre la fille et la femme que vous devenez. Donc, un grand merci.
Merci à vous, Bertrand, de nous avoir accueillis dans votre émission. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.
Tant mieux, j'espère que les auditrices et les auditeurs auront le même plaisir à nous écouter et je vous dis donc à bientôt.
Se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parsi gradita, è breve gioire, bisogna morire, non val medicina. Non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.